France Inter.
Bonsoir à tous. Rentrée politique sous pression pour François Bayrou. Le Premier ministre menacé de toutes parts. Il doit justifier demain sa feuille de route pour le prochain budget. 44 milliards d'euros de coupes prévues. Conférence de presse à Matignon et tentative de déminer la situation. La Russie inflexible. Si les négociations n'avancent pas avec l'Ukraine, c'est la faute des Occidentaux. L'Ukraine qui fête aujourd'hui 34 années d'indépendance. À suivre encore, Chicago dans le viseur de Donald Trump aux États-Unis, la garde nationale bientôt déployée dans ce bastion démocrate. En France, une mesure pour protéger les patrons du secteur des crypto-monnaies. Et puis la fin des vacances, pas encore pour les enfants. Alors, qui pour les garder? Question posée aux parents ce soir. Quel temps pour le début de la semaine, Virginie Hilson-Lévy? Ça sera encore bien estival demain.
Profitez-en, ça va durer jusqu'à mardi avant le retour des orages. Plus d'infos dans quelques minutes.
France Inter. Une gauche inflexible, la menace d'une censure cet automne et d'ici là, cet appel au blocage pour le 10 septembre. François Bayrou sur le fil du rasoir donc, en cette rentrée politique, le prochain budget en fardeau. Son plan prévoit 44 milliards d'euros de coupes. Il doit tenir demain, donc depuis Matignon, une conférence de presse. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Nouvelle tentative du Premier ministre pour essayer de convaincre et au passage de sauver sa place.
Et oui, et les proches du Premier ministre le lui avaient conseillé, à commencer par le chef du groupe Modem à l'Assemblée nationale, Marc Fesneau. Il faudra pousser les feux au maximum, quitte à tomber, pour avoir dit la vérité aux Français. Alors donc, François Bayrou a pris son risque, gravi à sa manière son Himalaya, mais il ne peut guère aujourd'hui le dégringoler dans un sauf qui peut humiliant. Ce qu'il peut lâcher, en revanche, ce sont ces deux jours fériés dont la plupart des économistes doutent aussi de l'efficacité en termes de gains budgétaires. Il pourrait y avoir aussi quelques concessions faites aux pharmaciens, mais on voit mal le Premier ministre déchirer demain sa copie pour éteindre l'incendie qui couve.
Laurence, quoi d'autre? Que peut faire de plus François Bayrou pour déminer cette situation?
C'est compliqué. François Bayrou sait qu'il n'a rien à attendre de la gauche qui lui a déjà prévu la censure le 23 septembre et qui fourbille actuellement les moyens de ses mobilisations. Alors en revanche, le RN pourrait, lui, être traité. Le parti de Jordan Bardella n'a pas intérêt à une dissolution dans l'immédiat puisque Marine Le Pen ne pourrait pas se représenter. Et en cas d'éventuelle victoire, le risque, c'est d'atterrir à Matignon et de devoir s'atteler à son tour à l'exercice des budgets impossibles. À un an et demi de la présidentielle, c'est tout de même très périlleux. Et parmi les marques d'attention, on a vu cet été le ministre de la Justice revenir sur un vote du Parlement qui s'était opposé à ce que l'on rende plus difficile le mariage d'un étranger en situation irrégulière. Gérald Darmanin l'a donc fait passer par circulaire. Et sur le dossier de l'énergie, le Premier ministre n'a toujours pas publié le décret sur une programmation pluriannuelle de l'énergie qui doit être pris avant de la fin de l'été et qui est un véritable casus belli pour le RN.
Laurence Perron, service politique de France Inter. Le blocage ne peut pas être la réponse à la crise budgétaire, disait ce matin François Bayrou dans la presse, en réponse au soutien très appuyé, notamment de la France Insoumise, à ce mouvement Bloquons tout du 10 septembre, né sur les réseaux sociaux. Notez demain cette journée d'action prévue dans les hôpitaux de l'APHP. Les partenaires sociaux, eux, seront reçus au ministère du Travail à partir de ce lundi et puis début aussi de discussion entre les groupes parlementaires et le gouvernement. Je vous signale enfin que François Hollande sera l'invité de Nicolas Demorand et Benjamin Duhamel demain matin à 8h20 sur France Inter pour la rentrée de la grande matinale. Faut-il décaler la législative partielle à Paris début octobre? Oui, réclame la candidate PS Frédérique Bredin. Il y a un risque de télescopage avec les journées du patrimoine, dit-elle, week-end du premier tour, le 21 septembre, d'autant que la ministre de la Culture est elle-même candidate, Rachida Dati, qui connaîtra le 29 septembre, au lendemain du second tour, la date de son procès pour corruption et trafic d'influence. Une législative partielle à laquelle l'ex-premier ministre Michel Barnier est lui aussi candidat, investi officiellement par le parti Les Républicains. Jour de l'indépendance aujourd'hui en Ukraine, fête nationale célébrée pour la 4e fois en temps de guerre. Nous avons besoin d'une cessation des hostilités, estime sur place le Premier ministre canadien Mark Carney. Cessez le feu, trêve, armistice, peu importe le mot. Il assistait à une cérémonie sur la place Maïdan, en plein cœur de Kiev, aux côtés de Volodymyr Zelensky, en présence également de l'émissaire de Donald Trump, Keith Kellogg. Tandis que côté russe, rien ne bouge. Le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov accuse même les Occidentaux de freiner les négociations de paix. Jean-Didier Revoin.
Moscou reste très critique face à Kiev et ses alliés occidentaux. Selon Sergueï Lavrov, ils ne font que chercher un prétexte pour empêcher les négociations. Le chef de la diplomatie russe est même fondu d'une pique à l'égard du président ukrainien. Il reproche en effet à Volodymyr Zelensky de s'entêter, de poser des conditions et de réclamer coûte que coûte une rencontre immédiate avec Vladimir Poutine. Or, pour les Russes, une rencontre entre les deux présidents n'a de sens que s'ils parviennent à trancher des questions importantes pour avancer concrètement vers une paix durable. Pour l'heure, les négociations semblent buter sur les garantie de sécurité pour l'Ukraine. Moscou invoque le respect d'un principe du droit international qui dit qu'il n'est pas possible de garantir la sécurité d'un État, l'Ukraine, au détriment de la sécurité d'un autre État, la Russie. À en croire le chef de la diplomatie russe, Moscou n'est pas prêt à infléchir sa position même face à de nouvelles sanctions européennes. Sergueï Lavrov les a même qualifiés de tentatives de violation du processus lancé par les présidents Trump et Poutine. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
La Russie a fait d'importantes concessions sur l'Ukraine depuis le sommet en Alaska, affirme pour sa part le vice-président américain J.D. Vance. Nous sommes dans un processus diplomatique de bonne foi, assure-t-il. Russes et Ukrainiens qui ont par ailleurs échangé 146 prisonniers de chaque camp ce dimanche. Los Angeles, Washington et désormais Chicago. Donald Trump envisage d'y déployer la garde nationale dans ce bastion démocrate. Une manière pour le président américain de lutter, selon lui, contre la criminalité et l'immigration. Aux États-Unis pour France Inter, Loïc Loury.
Vendredi dernier, Donald Trump annonçait la couleur. Nous allons rendre nos villes très sûres, assurait le président américain, avec New York et surtout Chicago en ligne de mire. Selon le Washington Post, le Pentagone plancherait en effet depuis des semaines sur plusieurs plans d'action, l'un d'eux prévoyant le déploiement dans la plus grande ville du Midwest de milliers de soldats de la garde nationale. Depuis des années, le milliardaire décrit les grandes métropoles démocrates et en particulier Chicago comme des coupes-gorges à feu et à sang. Il passe désormais à l'action contre l'avis des autorités locales. Donald Trump accroît ainsi ses moyens de répression contre l'immigration et il crée du chaos pour en tirer plus de pouvoir, dénonce la gouverneure adjointe de l'Illinois. À Washington, les près de 2000 réservistes de la garde nationale mobilisés récemment seront bientôt autorisés à porter des armes à feu.
Loïc Loury. Nouvelle frappe israélienne au Yémen décide aux mains des Houthis rebelles pro-iraniens pour cible. 2 morts dans la capitale Sanaa. Israël qui bombarde encore le sud Liban et occupe toujours plusieurs secteurs autour de la frontière. Dans cette région dévastée, les habitants s'interrogent sur la reconstruction et le Hezbollah tente de tirer parti de ce chantier titanesque. Reportage aux côtés d'un habitant du village de Yaroun, partagé entre chiites et chrétiens, de notre correspondant Arthur Saradin.
Il n'y a plus de maison, mais on a toujours les routes.
Pour qu'on s'imagine, c'est possible de décrire un peu ce qu'on a devant nous?
Des tas de cailloux. Chaque tas est une maison. Et là, c'est l'église. Vous êtes descendu voir ou pas?
Non. Trop de... Alors, dans ce quartier du village de Yaroun où on se trouve, les bâtiments, ils ont été détruits soit au bulldozer, soit par des opérations de dynamitage de l'armée israélienne. L'église qui est devant nous, elle est complètement effondrée.
On s'engueulait aujourd'hui entre nous parce qu'on ne savait pas du tout quand est-ce qu'on doit démarrer la reconstruction de cette église. Même l'archevêque disait « attendez un peu parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer ».
Et alors qu'après les dernières guerres, tout avait été toujours reconstruit ici.
En 2006, ils sont venus, les Qataris, avec plein de sous. Ils ont reconstruit pas mal de villages. Ici, ils sont pas là, les Qataris. Pas cette fois-ci.
En fait, ce que nous racontent les civils ici, c'est la peur du retour d'une guerre. Sans plan national de reconstruction, le maire d'un village voisin, Kassem, explique qu'il y a un acteur qui profite du vide auprès des habitants.
Hezbollah, il a donné entre 1000 dollars et 30 000 dollars pour réparer leur maison.
Les autorités libanaises, elles, ont promis de désarmer le Hezbollah. Et elles doivent aussi stabiliser la frontière encore occupée en partie par Israël. Et parmi ces chantiers immenses pour les Libanais du Sud, celui de la reconstruction est sans doute le plus incertain.
En Cisjordanie occupée, des centaines d'arbres déracinés par l'armée israélienne aujourd'hui dans un village palestinien. L'objectif est de nous forcer à immigrer, dénonce une association locale. Israël a adopté cette semaine un plan majeur de colonisation du territoire immédiatement condamné par une vingtaine de pays, dont la France et le Royaume-Uni. En bref, Bref, encore concert sous haute surveillance à Rock en Seine, près de Paris. Nicap, actuellement sur la scène du parc de Saint-Cloud. Le festival parisien a maintenu la programmation du groupe en dépit des protestations et de l'annulation par la région Île-de-France d'une subvention de 500 000 euros. Les Nord-Irlandais n'ont jamais caché leur soutien à la cause palestinienne, faisant de leurs apparitions sur scène des tribunes pro-Gaza. L'un des membres du groupe est d'ailleurs poursuivi par la justice britannique pour s'être couvert d'un drapeau du Hezbollah lors d'un concert à Londres l'an dernier. Le mouvement islamiste libanais classé terroriste au Royaume-Uni. Il est 19h10.
France Inter. Xavier Demagny.
Mise en examen confirmée pour le principal suspect dans l'affaire des quatre corps retrouvés dans la Seine la semaine dernière. Le parquet a requis la détention provisoire. C'est le profil d'un tueur en série qui se dégage après 96 heures de garde à vue pour cet homme d'une vingtaine d'années, a priori de nationalité tunisienne, habitué d'un squat des bords du fleuve près du lieu où les corps ont été repêchés, également point de rencontre homosexuelle. Cacher son nom pour se protéger, les dirigeants d'entreprise vont pouvoir garder confidentiel désormais leur adresse et leur nom dans les répertoires officiels. Décret publié au journal officiel ce matin. En réponse, Victor Vasseur, aux inquiétudes du secteur des crypto-monnaies, dont plusieurs patrons ont été victimes ces derniers mois d'enlèvement ou de tentatives d'enlèvement.
Oui, comme en début d'année avec le kidnapping de David Ballan, le cofondateur de Ledger, une entreprise spécialisée dans la crypto-monnaie basée dans le Cher. L'homme d'affaires séquestré pendant 36 heures, puis libéré avec un doigt coupé. Sa compagne, elle, est retrouvée ligotée dans le coffre d'une voiture. Les ravisseurs exigeaient une rançon de 10 millions d'euros sous forme de bitcoins pour libérer le couple. Une autre affaire avait marqué en mai dernier au cœur de Paris avec cette spectaculaire tentative d'enlèvement d'une femme. Son père est à la tête d'une grosse société de crypto-monnaie. Ce ne sont pas des exemples isolés, il y en a d'autres. Alors, avec cette mesure, les patrons pourront demander que leurs adresses personnelles et celles de leurs associés soient effacées du registre national des entreprises. Objectif, mieux protéger leur vie privée et garantir ainsi leur sécurité, écrit le ministre de la Justice Gérald Darmanin sur X, car ces entrepreneurs, issus du monde de la crypto-monnaie, sont devenus des proies pour les criminels.
Victor Vasseur pour ses explications. La dermatose nodulaire détectée dans l'Ain, premier foyer dans ce département où les bovins doivent être abattus dans les prochains jours pour éviter la propagation de cette maladie non transmissible à l'homme mais très contagieuse entre les animaux. En Savoie et en Haute-Savoie, des centaines de bêtes ont été abattues cet été. Plus de 300 000 bovins ont également été vaccinés dans la région. Dans l'Aude, ce sont les vignes qui ont eu très très chaud ces dernières semaines. Des parcelles brûlées, environ 2000 hectares, sur les 17 000 parcourus au total par l'incendie historique dans le massif des Corbières. Ce feu, le plus important depuis un demi-siècle, et ses conséquences sur l'attractivité du département. Écoutez l'appel de sa présidente, Hélène Sandranier.
Les feux que nous avons vécus ont eu un impact réel sur ce qu'on appelle les réservations, notamment de dernière minute. Mais ce qu'il faut dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est l'Aude, son attractivité, sont toujours là, son canal du Midi est toujours là, Carcassonne et sa cité est toujours là. Nous avons des plages magnifiques. Nous avons un arrière-pays magnifique. Si vous avez été touché par ce qui s'est passé, venez. Venez nous aider. Et ce n'est pas de la charité que je réclame. Nous avons besoin de relever effectivement une partie de notre tourisme et d'en réinventer sur une zone particulière un autre.
Hélène Sandranier, présidente du département de l'Aude sur France Info. Sur la route du retour, un peu plus de 400 km de bouchons au pic de ce midi. Bon courage si vous êtes encore au volant. Un trajet souvent synonyme de retour au travail pour beaucoup d'entre vous, mais pas encore de retour à l'école pour les enfants. Il reste une semaine avant la rentrée. Alors, qui pour les garder et comment? La réponse de ses parents rencontrés par Erwan Chassin au Bois de Boulogne à Paris.
Olivier et son épouse se baladent au bord du lac. Ils viennent de reprendre le travail ou le reprennent demain. Et eux ne se posent pas tellement la question de savoir qui va garder leurs enfants cette semaine.
Ah bah alors nous, ils sont déjà un peu plus grands puisqu'il y a deux au collège. Bah ils se gardent un peu tout seuls. Et puis il y a une nounou de temps en temps qui passe à la maison aussi.
Souvent, il y a la solution des grands-parents.
Ah non, ils sont pas là. C'est dommage, ils sont trop loin.
Mais lorsqu'ils ne sont pas loin, les grands-parents sont souvent mis à contribution. En tout cas, C'est ce que fait Rémi qui se promène avec son fils Neil.
Je suis séparé, donc j'ai un week-end sur deux. Et c'est vrai que quand on n'a pas de solution de repli pour le faire garder, c'est toujours les grands-parents qui s'y collent, quoi. Donc bon, voilà, c'est toujours appréciable et agréable de pouvoir compter sur la famille et autres, quoi.
Compter sur la famille, ça ne fonctionne pas toujours. Par exemple, si les enfants de Robert, 83 ans, assis sur un banc, lui demandent de jouer les nounous cette semaine...
Non, je ne les garderai pas. C'est aux enfants de garder leurs enfants. Donc, c'est avant partir en vacances de réfléchir à l'organisation. Et pas dire « Papa, maman, j'ai besoin de toi parce que j'ai ce problème-là ». Il le sait, le problème qu'il aura en rentrant. C'est pas la peine de me raconter des histoires.
Assis à côté de lui, Arlette explique aussi que garder des petits-enfants quand on habite un petit appartement plein Paris sans jardin, c'est quand même difficile passer un certain âge.
Voilà, reportage Erwan Chassin à une semaine donc de la rentrée scolaire. La première d'Olivier Giroud à domicile. L'attaquant tout juste recruté par Lille découvre ce soir la pelouse du stade Pierre Mauroy. Le LOSC reçoit Monaco à 20h45 en clôture de cette deuxième journée de Ligue 1. D'ici là, notez la victoire des Bretons de Lorient contre les Bretons de Rennes 4-0. Lens s'impose au Havre 2-1. Victoire de Strasbourg contre Nantes 1-0. Et puis Toulouse mène dans les derniers instants du match contre Brest 2-0.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Virginie Ilson-Lévy, on vous retrouve ce soir. Le temps sera plus instable en Occitanie.
Oui, quelques averses orageuses vont notamment se déclencher sur l'est des Pyrénées. Elles pourront concerner aussi en début de nuit le Roussillon. Ailleurs, le temps va rester calme avec un ciel bien dégagé. Alors ce lundi, la météo sera toujours bien estivale, même très lumineuse sur une grande moitié nord. Les nuages vont envahir surtout le sud. Ce sera dans l'après-midi avec quelques orages qui pourront éclater des Pyrénées aux Alpes, au pourtour méditerranéen et jusqu'en Corse.
Et il va faire un peu plus chaud demain.
Avec un pic de chaleur entre lundi et mardi, mais une chaleur sans excès. Un vent de sud qui fait remonter donc de l'air chaud venu d'Espagne. Alors le matin, ce sera toujours un peu plus frais dans le nord-est avec 7 à 11 degrés, 12 à 22 degrés ailleurs. L'après-midi, les températures sont de nouveau en hausse. On attend 24-28 degrés sur la moitié nord, localement jusqu'à 30 degrés sur les Pays de Loire. Et au sud, encore 27 à 30 degrés, même des pointes à 33 degrés entre le Poitou-Charentes jusqu'à l'Aquitaine et l'Occitanie, mais aussi sur l'arrière-pays provençal et en vallée du Rhône. Et donc à partir de mercredi, retour d'un temps beaucoup plus agité avec des orages et une baisse très nette des températures d'ici la fin de semaine.
D'ici là, on en profite. Merci Virginie Ilson-Lévy.